Vous écoutez
RMC. RMC, le ring des GG.
Léon Vincent revient à 15 mètres maintenant. Il est devant Léon Vincent. Il va passer devant. Il va le faire. Mais oui. Léon Vincent.
Félix qui va servir sur le coup droit d'Hugo Calderano. Et ça y est, c'est fait. Félix Lebrun. Et médaillé de bronze. Il a du mal à réaliser ce qui se passe. Mais il est génial ce gamin.
Pauline Ferrand-Prévot ne va plus tarder, elle aussi, à faire son apparition devant des milliers de spectateurs ici à Élancourt. Pauline Ferrand-Prévot qui passe la bosse, qui peut lever les bras, qui serre le poing, qui lève le poing, le sourire aux lèvres. C'était son Golgotha, ces Jeux Olympiques. Et bien le Golgotha se transforme en paradis. Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique.
Kim Il-jong qui essaye de se sortir.
Ça remet les poils, franchement, non? De réécouter tout ça, les amis. Il y a un an, Léon Marchand éteignait la vasque olympique aux Tuileries. Aurélie Aubert, notre championne paralympique de boccia, soufflait sur la flamme au Stade de France et nos champions paradaient sur les Champs-Élysées. Un an plus tard, le vœu du président Emmanuel Macron est exaucé. Demain, il y aura 5000 événements un peu partout sur le territoire pour fêter le sport. Des activités gratuites en présence d'athlètes organisées par les clubs, les associations, les collectivités et les entreprises. Mais le sport est-il encore à la fête dans notre pays alors que les coupes dans le budget des sports s'accumulent? Avant d'accueillir notre invité, je vous pose cette question, les GG. Paris 2024, peut-on encore parler d'héritage? Oui ou non? Fred Weiss.
Mais évidemment que non.
Simon Dutin.
Évidemment que oui.
Julien Benneteau.
Malheureusement, plutôt non.
Jérôme Pinault.
Oui, pour les émotions et uniquement pour les émotions.
On a entendu il y a quelques instants. Vous êtes partagé, tiens, sur le compte X des grandes gueules du sport, vous dites non à 83% quand même.
On reçoit notre partagé.
C'est un peu moins partagé, effectivement. On reçoit notre invité, la présidente du Comité national olympique et sportif français, Amélie Oudéa-Castéra, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui, ex-ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Évidemment, nous sommes donc à la veille de la fête du sport. Est-ce que l'heure est à la fête ou à l'inquiétude, voire à la résignation sur la place du sport en France quand on parle de tout ça, justement des coupes budgétaires? On a eu également beaucoup de sportifs pendant tout l'été qui ont participé aux Jeux, qui avaient des témoignages un peu tristes un an après. Vous êtes dans quel état?
On n'a pas le cœur à la fête. Maintenant, c'est une chance d'avoir cette date demain du 14 septembre en anniversaire de cette parade des champions d'il y a un an et d'inscrire le sport dans le calendrier de la nation. Il y a une fête de la musique, on sait ce qu'elle est devenue au monde de la culture et aux Français. Le but, c'est que la fête du sport, ça devienne ça, d'édition en édition, en ancrant ça dans le temps. Après, je pense que c'est aussi... pour nous, important, justement, dans ces moments où l'héritage, on voit qu'il y a des choses difficiles, il faut relancer des choses, d'avoir ce message d'ouverture, d'accueil. On est au cœur de la rentrée sportive, d'avoir des initiations sportives, d'avoir des découvertes pour les familles, pour les enfants, tout ça est important. Et puis, moi, j'ajoute qu'on est à nouveau dans un moment de fracture, de division, où la société va pas très bien, et on s'aperçoit que dans ces moments-là, le sport est là. Mmh. Le sport est là, le sport rassemble. C'était le cas il y a un an, vous en souvenez, hein, l'état de l'opinion par rapport à la classe politique. Aujourd'hui, à nouveau, c'est délicat. On va prouver que demain, le sport est là, le sport rassemble. Et parce qu'il apporte tout ça à la société, il a besoin d'être soutenu.
Je rappelle la question de notre débat. Paris 2024, peut-on encore parler d'héritage? Est-ce que l'héritage de Paris 2024 est en danger pour vous? En tout cas, est-ce qu'il faut se le dire aujourd'hui?
Je pense qu'il est en risque. Je pense qu'il y a incontestablement des choses très positives qui se sont passées. On a des actifs, déjà. Je ne vais même pas mentionner le sujet des logements sociaux sur le village des médias, des athlètes, ça. Mais même si on s'en tient au sport, il y a des équipements structurants. Je pense au centre aquatique olympique, qui est quand même une énorme chance pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, y compris d'un point de vue du sabre à nager, qui est l'un des enjeux sportifs principaux pour ce département. On a au-delà de ça des équipements de proximité qui sont sortis de terre par milliers, plus de 6000 partout en France. Il y en a encore 2000 qui sont en train d'être construits. Donc il y a des lignes qui ont bougé. Il y a aussi des dispositifs, je pense aux 30 minutes d'activité physique quotidienne qui ne sont pas encore déployés exactement partout dans les écoles, mais c'est un peu des lignes qui ont bougé. Il y a la mise en place là à la rentrée des tests de conditions physiques pour les enfants. Donc il y a des choses qui existent et puis surtout, on voit qu'il y a un engouement pour le sport. On bat aujourd'hui des records de nombre de licenciés. On a passé la barre des 17,2 millions partout en France Et il y a des disciplines qui ont grimpé à plus de 20%, je pense au tennis de table, à l'escrime ou même au badminton. Et on a aussi 3,5 millions de pratiquants supplémentaires au cours des derniers mois. On a formé 3000 clubs à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc incontestablement, il y a des choses. Et moi, j'ai envie de dire, il y a même un souffle. C'est-à-dire, on voit que notre modèle de haute performance, il a fait ses preuves l'an dernier avec les Jeux, tant côté olympique que paralympique, mais on a eu aussi un grand été de sport. Mmh. Pauline Ferrand-Prévot,
le Tour de France avec les audiences
mondiaux de natation. Mais au-delà de ça, moi je le comptais, il y a 10 à 15 médailles d'or dans des championnats du monde ou des championnats européens ou des podiums qui ont été glanés par énormément de disciplines à travers nos sports. Mmh. Et ça, c'est aussi l'héritage des Jeux. Moi, je rencontre des gamins, les gens ont envie même de bosser dans le sport. Il y a des business qui se créent. Il y a des gens qui étaient aujourd'hui, regardez l'article ce matin dans l'équipe de Pierre-Antoine Capton, quelqu'un comme ça qui aujourd'hui a envie de monter en puissance dans
directeur
ses investissements
de Media One,
dans le sport.
Qui parle effectivement sur Ligue 1 Plus.
Oui, les lignes ont bougé. Il y a une envie de sport. Ce pays a montré d'abord qu'il était encore un grand pays capable de faire des grandes choses.
Mais il faut des moyens.
Et qu'il était aussi bon sur le sport. Mais il faut des moyens, c'est ça la notion de risque, c'est que tout ça s'effrite si on continue d'avoir des moyens entaillés comme ça.
Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du CNOSF, est avec nous à la veille de la première fête nationale du sport. Que des Olympiens autour de la table, sauf nous, Simon, hein, bon, malheureusement. Fred, là, ça, une question.
Moi, je me posais la question, on a tous une image de ce que peut être un héritage des Jeux Olympiques, mais moi, je voudrais connaître votre vision de l'héritage idéal de ces Jeux Olympiques, parce que finalement, on imagine tous des choses, vous avez dit des choses qui fonctionnaient, mais on voudrait savoir ce qu'il manque pour vous et qu'est-ce qui serait idéalement construit grâce à
Paris. Moi, je pense que le modèle de haute performance, notre capacité à former des champions, il a été largement validé. Maintenant, il ne faut pas perdre le cap, garder des moyens pour qu'il y ait les Jeux de Milan, les Jeux de Los Angeles, puis les Jeux des Alpes 2030 en ligne de mire, et sur tout ça, on soit bon et on confirme notre top 5 olympique, notre top 8 paralympique. Ensuite, moi je pense qu'un héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sport qui est plus au cœur de la société, donc qui est capable d'impacter la jeunesse, qui est capable d'impacter la santé, qui est capable d'impacter l'inclusion. Et là, il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a des choses qui ont été démantelées. Je pense au passeport pour les 6-13 ans, et je pense même au dispositif 2 heures pour les collégiens. C'est quelque chose qui était compliqué à mettre en place, qui nécessite beaucoup d'approches partenariales, qui est exigeante, parce qu'il faut du transport scolaire, il faut une coordination des établissements scolaires, des clubs, des fédérations, des collectivités. Bah, tout ça, aujourd'hui, il n'y a plus d'énergie qui est mise sur ce dispositif.
Et
ça, c'est dommage.
Et il y a un autre élément. Excusez-moi de vous couper, on essouffle les gens aussi avec tout ce qui se passe autour du sport et cette volonté de le faire.
Ouais.
Il ne faut pas oublier qu'à la base du sport, dans les clubs, le sport amateur, on parle de bénévolat,
exactement,
les bénévoles. Et là, ces gens-là sont aussi les gens qu'on met à mal par les différentes autres décisions prises par les différents gouvernements. Et ces gens-là s'essoufflent. Pour être au cœur du sport dans mon village, je suis élu local, on n'a plus de bénévoles, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'embaucher des contrats courts, donc ça coûte cher au club, donc certains clubs déposent les armes. On arrête certaines disciplines où on les regroupe avec 7 communes, donc on parle du transport, ça devient encore plus compliqué. On compte sur qui? Bénévoles et les parents. Et là, il y a un vrai sujet et un vrai souci.
Qu'on est en accord sur le fait qu'il faut hyper attention à nos clubs. Moi, c'est pour ça que je tire cette sonnette d'alarme aujourd'hui sur les budgets. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est des équipements qu'on construit pas, c'est des clubs qu'on soutient pas, c'est un tissu associatif qui se fragilise, c'est des jeunes qu'on n'accueille pas dans nos structures, et c'est des éléments de renforcement du bénévolat, par exemple en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, pour les reconnaître, qu'un parcours soit amélioré par tout ce qu'ils ont pu donner aux autres, transmettre, etc. Tout ça, c'est les risques qu'on a aujourd'hui. Ce qui, moi, me rassure quand même un petit peu, c'est que d'abord, le sport reste quand même le premier secteur d'engagement des bénévoles dans notre pays. Ça continue d'attirer des jeunes. Et là, l'expérience des 45 000 volontaires des Jeux de Paris 2024, à qui on ne cessera jamais de rendre vraiment l'hommage qui leur est dû, c'est des choses positives. Et je voyais ce matin, il y a une enquête qui a été révélée, qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Winvolve, en lien avec un cabinet d'études, et qui montre qu'on a aujourd'hui 45% des Français qui sont prêts à s'engager en faveur du bénévolat parce qu'ils ont vu ce que ça pouvait apporter. Maintenant, ça c'est une richesse extraordinaire, c'est un vivier, mais il faut en prendre soin, il faut leur envoyer les bons signaux, et c'est pour ça que je suis fière que demain, à la fête du sport, il y a un moment où on rendra spécifiquement hommage avec l'un de nos grands ambassadeurs de cette fête du sport à nos volontaires et nos bénévoles. Sans eux, sans ces 3,5 millions de personnes-là en France, rien n'est possible.
Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français, est avec nous à la veille de cette fête nationale du sport dont vous avez parlé. Vous avez co-signé hier une comment pour appeler ça
une tribune,
un communiqué. Le sport rassemble, soutenons-le.
Ouais.
Vous avez signé cela avec Marie-Amélie Le Fur, la présidente du Comité paralympique sportif français, qui était avec nous la semaine dernière et qui a poussé aussi un coup de gueule sur la situation actuelle. Vous êtes vous envoyez quand même un message aux décideurs politiques en disant que le sport a besoin d'eux, ce que vous disiez tout à l'heure. Quel lendemain attend le sport? L'après 14 septembre ne doit pas se transformer en défaite du sport. Moi, j'ai une question à vous poser, Amélie Oudéa-Castéra. Dans la situation actuelle de turbulence politique, voilà, on ne sait même pas demain peut-être si la ministre des Sports va être la même. D'ailleurs, elle sera avec nous, Marie Barzac, demain en studio. Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre? Est-ce que le sport est audible auprès des décideurs politiques ou en ce moment, on vous dit, bah, écoutez, on a autre chose à penser, en fait, que ce qui se passe avec le sport?
Un peu des deux.
Comment on se fait
entendre? Je pense que le pays est dans une situation qui est hyper difficile avec cette instabilité politique, ces déséquilibres budgétaires, les tensions géopolitiques, la colère sociale sur fond de transition qui sont hyper anxiogènes, tant sur le plan du réchauffement climatique, de l'impact de l'intelligence artificielle. Donc, des problèmes, il y en a beaucoup. Donc, je veux dire, le sport ne peut pas tout, le sport n'est pas au centre de tout. Il faut qu'on soit lucide là-dessus. En revanche, je pense que ce qu'il apporte à la jeunesse, à un moment où on se soucie, en plus de santé mentale, d'addiction aux écrans, ce qui nous permet à nous d'évoluer en bonne santé, avec du bien-être, donc avec plus de confiance en nous pour faire face justement à ces transitions qui sont anxiogènes. La capacité qu'il a à inclure des gens qui aujourd'hui se sentent déclassés, se sentent isolés, n'ont plus de point de repère, c'est un levier hyper puissant. Le sport est un levier incroyable.
C'est un levier
incroyable.
Puissant, mais comment
donc,
se faire entendre?
Ce message-là, on le porte. Moi, l'avantage aujourd'hui, c'est que je connais ces décideurs publics, je connais les étapes de la décision, donc je ne ménage aucun de mes efforts pour aller porter ce plaidoyer. Je ferai la même chose avec les collectivités locales à l'horizon des municipales, mais d'ores et déjà, il y a une énorme bataille que nous menons. Moi, je passe du temps avec les autorités à Bercy, évidemment un dialogue qui est continu, permanent, avec Marie Barsac, le ministère des Sports, et avec quelques éléments simples. Je veux dire, c'est pas possible que le sport soit traité comme il l'est. On est dans ce qui s'est au niveau des arbitrages, là, dans la précédente équipe, on était le deuxième budget le plus impacté. C'est voilà. Dingo.
Mais alors, quels sont les leviers de pression
et avec,
sport,
et avec un truc absurde, Georges, avec un truc absurde, c'est que le sport, c'est moins de 0,10% du budget de l'État. C'est-à-dire que si vous tapez sur le sport, vous le tuez, vous l'asphyxiez et vous ne résolvez rien
du budget
à l'équation globale pour le pays.
Donc
c'est débile. Et en plus, attends, moi je veux quand même rappeler que en plus notre pays aujourd'hui de facto engloutit 160 milliards d'euros pour faire face à la charge liée à l'obésité, à la sédentarité et à l'inactivité.
C'est
juste absurde.
On
c'est dingue.
On a 1 euro investi,
ça fait 13 euros d'économie.
Donc je ne comprends pas comment mathématiquement
c'est débile. C'est débile.
Mais on fait quoi, Amélie Oudéa-Castéra, pour faire pression
sur les
clubs? On fait grève?
On se bat. On demande, comme moi je l'ai fait avec différents courriers, on demande qu'il n'y ait plus 1 euro qui soit retiré au sport en cours d'année, en cours d'exercice. Le sport a rendu presque la moitié de ses crédits en cours d'année. C'est inacceptable. Je ne connais pas d'autres secteurs qui aient subi une telle ponction en proportion de ses ressources. Deuxièmement, on demande qu'il y ait une stabilisation des budgets. Encore une fois, le sujet n'est pas de dire que le sport doit s'exonérer. Non, on est tous dans un moment de difficulté. Tous les secteurs doivent faire des efforts. Mmh. Et le sport, on est des gens responsables, on est des gens engagés, on fera notre part d'efforts et on fera même notre part, non seulement d'efforts budgétaires, mais aussi de modernisation de nos modèles économiques. Le sujet, c'est d'aller chercher des partenaires, d'aller chercher des mécènes, d'aller innover peut-être avec même des fonds d'investissement, bosser avec la Caisse des dépôts, la Banque publique d'investissement. Il y a plein de choses à faire. Et aujourd'hui, moi, je suis à l'action là-dessus, hyper à l'offensive. Mais il faut que le sport soit respecté. Il ne faut pas qu'il y ait un désengagement de la puissance publique. Et il faut que les engagements qui ont été pris au lendemain des Jeux soient tenus.
Respecter le sport, c'est votre message à la veille de la fête nationale du sport.
Et de le soutenir. Moi, je vous ai apporté ce petit autocollant qu'on va diffuser demain très largement, qui sera porté par tous nos athlètes. On a 110 athlètes mobilisés derrière la fête du sport. Voilà, le sport rassemble. Encore une fois, quand tous d'élite, lui, il est là. Et il mérite d'être soutenu. On a besoin d'avoir plus de sport dans notre société aujourd'hui pour qu'elle aille mieux.
Soutenons le sport. Voilà le sticker que vous êtes en train de donner aux grandes gueules du sport. Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français, est avec nous. Julien Beneteau, t'as entendu encore?
Non, Amélie a dit beaucoup de choses avec tous les arguments, avec beaucoup de volonté, d'énergie qui la caractérise. On peut lui faire confiance là-dessus qu'elle ne lâchera rien avec des vrais arguments. Pour revenir sur l'héritage des Jeux Olympiques, Et moi, j'ai eu la chance de faire partie de la commission des athlètes du Paris 2024. Et une des raisons pour lesquelles je me suis investi là-dedans, c'est que j'avais espoir que grâce aux Jeux Olympiques, la place du sport dans notre société change vraiment. Change vraiment, et notamment à l'école. Notamment peut-être qu'on pouvait bouleverser les rythmes scolaires, permettre à nos enfants d'avoir un rythme qui s'approche de certains pays où, pour faire du sport au sein de l'école ou dans un club ou une autre activité culturelle, cinéma, musique, on puisse mettre en avant un double projet, une double culture et des choses comme ça. Ça, aujourd'hui, on voit que c'est lettre morte. Et en fait, moi, je ne comprends pas, et Amélie en a parlé là, je ne comprends pas le décalage qu'il y a entre la volonté et l'action concrète des pouvoirs publics et des politiques en rapport avec ce que rapporte le sport. On l'a dit, les plus grandes audiences télé, c'est la finale de la Coupe du Monde de foot, c'est la Coupe du Monde de rugby, c'est les Jeux Olympiques l'année dernière, ce qui s'est passé, comment le pays a vécu Jeux Olympiques.
Rien ne rassemble plus que le sport.
Exactement.
Tu peux dire ce que tu veux,
L'année dernière, il y a un an, c'est le plus bel été que les Français ont vécu. On a organisé les plus beaux Jeux Olympiques du monde de l'histoire. Il faut pas avoir peur de le dire. Alors que tout le monde, l'opinion publique prédisait que ça allait être un fiasco, etc. L'équipe de tennis anglaise, ce qu'ils ont fait, ils ont fait rayonner la France, le sport, nos champions ont ramené des médailles. Et derrière, on baisse les budgets, il n'y a pas un élan concret pour porter le sport au centre de la société.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Et c'est vrai que il y a beaucoup de problèmes dans le reste du monde et il faut rester lucide sur la place du sport. Mais quand on voit tout ce que ça rapporte, intrinsèquement, concrètement, directement ou indirectement, et que derrière, il n'y a rien qui est mis en place, ce décalage-là.
Moi, je comprends aussi que les athlètes puissent se ressentir un petit peu utilisés, parce qu'on a l'impression qu'on les a utilisés pour les JO de 2024 et qu'après, ils ont des difficultés à trouver de l'argent, ils ont des difficultés à s'entraîner, ils ont plus de créneaux. Et donc, tout laissé en
les soutiens à la haute, les soutiens aux champions et à la haute performance, pour l'instant, ont été bien maintenus. Il y a même eu 6 millions qui ont été mis sur les sports d'hiver, qui a une préparation spécifique. Et peut-être juste en rebond de ce que dit Julien, avec lequel je suis hyper d'accord, je pense qu'il y a quand même un point. On a une opportunité, c'est la convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant. Et là, moi, je veux qu'il y ait une contribution du mouvement sportif. On a constitué un groupe de travail où il y a des grands spécialistes, des chercheurs. Il y a un François Carré qui est très, justement, sur l'activité physique pour les enfants. Stéphane Diagana qui est avec nous pour, justement, porter ce message qu'il faut faire évoluer les rythmes scolaires pour laisser plus de place à des activités, d'ailleurs, qu'elles soient sportives ou culturelles ou même, du lien social autrement, parascolaire.
Mais donner les moyens à la formation.
Et ça, nous, on portera des propositions sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est aussi notre responsabilité. Il faut que si on veut bâtir cette nation sportive, on ait plus d'espace pour l'épanouissement des enfants, complément de ce qui se passe à l'école.
Simon.
Moi, je vais développer ce qui suit d'autant plus facilement que j'ai pas toujours été tendre avec votre action lorsque vous étiez responsabilité ministre des Sports. Moi, j'aimerais savoir ce qu'on demandait finalement à ces Jeux de Paris. Alors ok, c'est un événement qu'on a préparé pendant des années, mais vous l'avez rappelé, il y a quand même des infrastructures, il y a des logements, il y a un héritage immobilier tout simplement, il y a des emplois qui ont été créés pour être retourné à Athènes après les Jeux, pour avoir couvert les Jeux de Sochi et m'être intéressé un petit peu aux tournages qui ont été faits. Il y a des infrastructures qui ont coûté, qui ont été des gabégies financières. On a demandé aux populations locales de faire des sacrifices.
À Rio également.
Bon, ce sont de véritables tombeaux qui, en plus de laisser un sentiment amer, gâchent le paysage urbain des gens. Bon, moi, j'ai pas souvenir que Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy aient évoqué l'importance de pratiquer le sport 30 minutes par jour. Alors, la mode est de se moquer de la parole politique, quel qu'en soit le fond, mais malgré tout, qu'un président de la République mette le sport au centre des préoccupations d'une nation, je trouve que ça peut être considéré comme un héritage, l'exigence de résultats pour notre sport français qui va découler de ces records de médailles aux Jeux Olympiques. Je considère que c'est un héritage réussi des Jeux Olympiques. J'étais le premier à dire qu'on courait au carnage, qu'il fallait quitter Paris, que ça allait être raté, que le triathlon n'aurait pas lieu dans la Seine. que l'utilisation de la ville de Paris, ça marcherait pas. J'ai été le premier à retourner ma veste, à poser le genou à terre, et j'en parle encore avec des frissons. Ouais, ma compagne a eu les pires difficultés du monde à trouver une place pour son fils.
Ça nous a aidé à nous dépasser aussi.
Je l'imagine, et c'est tout à fait à votre crédit. Inscrire son enfant au tennis de table, c'est quasiment impossible. La fille de ma compagne, elle voulait pas faire de sport il y a 2 ans. L'an dernier, elle a dit, j'essaierai bien le basket. Bon, ça lui a pas plu. Cette année, elle fait de la natation. Alors que le sport, ça la branchait pas. Et encore une fois,
il y a un héritage. C'est ce que tu veux dire.
Et moi, j'en ai. Alors, on est obligé de parler chiffres, on est obligé de parler dates, échéances. Évidemment que moi aussi, je regrette les coupes budgétaires, mais dans un pays qui est au sein d'un continent aux portes duquel il y a la guerre, peut-être qu'il y a 4 ou 5 ans, on n'avait pas prévu que les budgets de défense exploseraient comme ça, et qu'il y a un principe de réalité auquel, malgré tout,
il ne faut pas être trop dur avec l'héritage de Paris.
Il faut se concentrer. Et moi, j'en ai marre que dans cette société, tout ce qui est immatériel soit déconsidéré, parce que, encore une fois, les émotions qu'on a vécues, les souvenirs qu'on s'est créés ensemble, qui permettent à un peuple de faire nation, et il faut bien reconnaître qu'on s'étouffe pas quand même avec les occasions de faire nation, de faire corps autour de quelque chose, et moi j'en ai marre que ce soit dévalorisé et qu'on nous dise ouais mais moins 30%,
parce que c'est on actuel, nous a promis 17%,
à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'un peuple, voilà, se réunir et se rendre compte que finalement être français et autour de ses souvenirs, de ses émotions et d'une culture qui certes peut encore être développée, moi j'en ai marre que ce soit jeté à la poubelle.
Ça n'a été que ponctuel, ça a été très bien,
c'était
que
ponctuel.
Tu veux valoriser l'héritage,
on a voulu se faire croire que les Parisiens allaient descendre la Seine en canot et kayak pour aller bosser ou aller chercher leur beefsteak au tir à l'arc, on s'est planté d'objectif.
Bon, c'était le coup de gueule,
mais moi je pense que vous dites la même chose. Je pense qu'en fait, il y a un élan, il y a un souffle, il y a des avancées. On sait que tout ça, c'est quand même un peu fragile, et c'est pour ça qu'il faut y faire hyper gaffe. Et si on coupe les budgets, on va se couper les ailes par rapport à ce qui a commencé à être fait. Or, on est dans un moment qui est inédit. Pourquoi ? Parce qu'on est entre deux éditions des Jeux Olympiques et Paralympiques dans notre pays. Il y a 2030, il y a eu 2024. On a 6 années pour vraiment bouger les lignes et faire cette transformation en passant de cette nation de grands sportifs qu'on est incontestablement aujourd'hui à une grande nation sportive. C'est ici et maintenant, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir l'appui des décideurs publics, des décideurs politique.
On continue d'en parler après la pause. Voilà, on va prolonger un petit peu la discussion parce que c'est important de parler de la place du sport en France et de l'héritage de Paris 2024. Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du CNOSF, est avec nous à la veille de la fête nationale du sport, la première. Appelez-nous 32-16 d'ailleurs si vous voulez réagir en avec les grandes gueules du sport sur RMC. À tout de suite. De retour dans les grandes gueules du sport avec Fred Veil, Simon Dutin, Jérôme Pinault, Julien Beneteau et notre invité Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité National Olympique et Sportif Français, avant la fête nationale du sport, la première demain. On prolonge le débat parce que le débat évidemment est déterminant en fait pour l'avenir du sport en France. Vous nous avez donné ce petit sticker, le sport rassemble, soutenons-le, qui vient évidemment s'ajouter à votre tribune hier avec Marie-Amélie Le Fur, la présidente du Comité Paralympique Français. On continue ce débat sur la place du sport en France. Fred, t'avais une question pour
Mais non, j'avais pas vraiment une question. J'avais surtout envie de répondre à Simon. Et j'en ai marre qu'on parle d'épiphénomène. Alors, épiphénomène fantastique, évidemment, qu'on a tous été ravis des Jeux Olympiques, mais c'est un épiphénomène et c'est pas suffisant pour moi. Alors, oui, on a des souvenirs. Oui, on est content. Oui, on a été tous fiers de cette période-là. Mais moi, j'ai pas envie de vivre dans le passé. J'ai envie qu'on continue à avancer. Mmh. J'ai envie de continuer à montrer que le sport a une place importante parce qu'on va continuer à gagner des médailles, mais aussi parce que nos jeunes vont faire du sport et que c'est bon pour leur santé, et pas seulement pour les athlètes de très haut niveau. Il y a aussi les jeunes qui doivent faire du sport. Et j'ai envie de parler de handicap. Et Simon, quand il me dit qu'il y a un héritage, quand on a reconstruit un gouvernement juste après les Jeux Olympiques, vous vous rappelez ce qu'il a manqué ? Un ministre du handicap. Et c'était quoi justement l'héritage des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques ? C'était remettre en avant les sportifs, bien évidemment, mais les personnes handicapées. Elles étaient où, les personnes handicapées ? Elles étaient représentées par qui ?
Échanger le regard.
On devait changer le regard. Le regard n'a non seulement pas changé, mais en plus on les a complètement oubliés sur le remaniement. À un moment, je suis désolé,
en tout cas, dans le sport, on
fait partie de l'héritage.
Oui, mais je suis d'accord, mais ça fait partie de l'héritage aussi de montrer que c'est des athlètes, bien sûr, mais c'est aussi des gens, des personnes tous les jours.
Et des transformations dans la société dont on a besoin.
Exactement, sauf que quand on commence un remaniement et qu'il n'y a pas directement, il n'y a pas de ministre du handicap. Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve qu'il n'y a pas d'héritage. Et en tant que parent d'enfant handicapé, bah, je suis désolé, pour moi, c'est scandaleux. Et pour moi, l'héritage de Paris va se désagréger. Oui, on aura toujours se souvenir de quelque chose d'extraordinaire qui nous a tous rassemblés. Un peu comme en 98 où tout le monde était dans la rue. Mais pour moi, c'est pas suffisant le souvenir.
Tiens, il y a un message sur notre numéro WhatsApp au 06 12 424 424. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages ce matin sur la place du sport en France. Il y a Philippe qui nous dit « Beaucoup de personnes ne pourront plus pratiquer le sport en parlant des coupes budgétaires. Mon fils fait du basket depuis 5 ans. Sa licence coûte 185 euros. Je n'ai pas un grand salaire. Je veux que mon fils continue sa passion. J'ai été obligé de faire un petit emprunt pour payer sa licence puisque je n'ai aucun droit par rapport à mon salaire. »
Déjà, félicitations.
Non, mais voilà, c'est un autre débat, évidemment, celui-là. Mais c'est un débat aujourd'hui sur le coût du sport, en fait.
La suppression d'un dispositif comme le passeport pour les 6-13 ans d'enfants issus de familles modestes, je pense que ça nous a tous profondément.
Mais c'est scandaleux,
c'est juste à peine un an
après les Jeux Olympiques.
Et donc, moi, je me bats aujourd'hui, et avec Marie Barsac, on en parle souvent. Elle a essayé d'ailleurs, avec Juliette Méadel, de débloquer une petite enveloppe pour les enfants de QPV. Donc, c'est peu de choses par rapport à ce qui a été supprimé, mais c'est quand même déjà ça, avec 2,5 millions qui ont été remis un petit peu dans la machine. Et surtout, maintenant, et moi j'espère qu'on pourra travailler notamment avec la CAF, et qu'on aura dès le budget prochain un retour de ce dispositif qui est essentiel. Parce qu'en plus, on sait qu'il y a des inégalités sociales qui creusent les effets de dépendance, de problématiques de santé. Donc le sport, là, qui lui est encore l'un des derniers endroits où justement il peut y avoir de la mixité, on peut rétablir beaucoup plus d'ascenseurs sociaux, beaucoup plus d'égalité des chances, c'est ultra important d'ouvrir ces espaces-là.
C'est d'autant plus important que pour ce qui est des comités départementaux olympiques, donc en local, on a aussi des actions dans les quartiers compliqués. On sait qu'il y a énormément de budget de l'État, beaucoup d'argent sont dépensés pour assurer une certaine sécurité, parce qu'on se plaint de cette population qui déborde un peu trop souvent. Mais pour cadrer ces gamins-là, pour essayer de faire en sorte qu'ils trouvent un but et qu'ils se rassemblent et qu'ils se rassemblent et qu'ils échangent, il n'y a pas mieux que le sport. Aujourd'hui, avec ces coûts budgétaires, on ne peut plus mener des actions dans les quartiers comme l'on le faisait avant. En revanche, on continue à aller se plaindre du fait qu'ils soient peut-être parfois un peu virulents sur certaines actions. Mais le problématique, elle vient de là déjà. Si on arrive à continuer à comprendre, le sport, c'est beaucoup plus que émotions,
mais
des exploits.
C'est pour ça que moi, quand j'étais au ministère, j'ai mis en place des emplois d'éducateurs socio-sportifs, 1000 emplois, pour justement qu'on arrive à encadrer ces gamins-là. Avoir 10 000 clubs sportifs engagés dans des actions d'inclusion par le sport et multiplier les différents bénéficiaires des dispositifs d'insertion. Aujourd'hui, on a un socle. En plus, il y a maintenant des opérations du stade vers l'emploi où on aide des gamins à être recrutés parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont débrouillards sur un terrain de sport.
De mener
et voilà. Et le problème, c'est que tout ça va se casser la gueule si on perd les budgets. C'est pour ça que c'est dangereux ce qui se passe. C'est contre-productif, c'est contraire aux engagements qui ont été pris. C'est dangereux parce qu'on va détricoter tout le travail qui a été fait depuis 4, 5, 6 ans. On parlait des équipes de Tony Estanguet qui ont construit aussi des choses depuis 10 ans. Il y a eu un travail avec les collectivités. Tout le monde s'y est mis, tout le monde a mis en place un socle, des bases. On a prouvé qu'on était en train de faire bouger les lignes, que la France pouvait être fière grâce au sport dans le monde entier, que son image était redorée par le sport. Il ne faut pas le laisser tomber aujourd'hui.
Amélie Castera, la présidente du CNOSF, est avec nous à la veille de la fête nationale du sport. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, que vous connaissez les acteurs. Vous avez été ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette fête nationale du sport, elle a été voulue par Emmanuel Macron, le président de la République.
Absolument, c'est sa décision au lendemain.
On se rappelle, l'année dernière,
exactement, c'était... Exactement, le lendemain des Jeux Olympiques.
Sur les Champs-Élysées.
Il avait anticipé et dire, on aura une parade le 14 septembre avec les champions et il faut que cette date, elle devienne finalement l'équivalent du 21 juin pour la fête de la musique.
Est-ce qu'il sera là demain pour fêter le sport et est-ce qu'il est encore à l'écoute est-ce que vous sentez qu'il est encore à l'écoute du sport? Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu pendant les Jeux Olympiques, beaucoup moins depuis un an.
Incontestablement. Je sais qu'il a envie à un moment d'honorer la fête du sport. Je ne sais pas si son agenda le lui permettra. Ça, c'est ses équipes qui doivent répondre. Marie Barsac vous dira peut-être plus d'éléments, donnera plus d'éléments demain. En tout cas, il y a une oreille qui reste attentive. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je garde de l'optimisme, je garde de l'espoir. Je pense qu'on est tous conscients qu'on tient avec ce socle sur le sport quelque chose d'important qui doit être préservé, amplifié, accéléré.
Marie Barsac doit poursuivre sa mission au ministère des Sports, selon vous?
En tout cas, moi, je suis pas dans la composition d'un gouvernement. En tout cas, ça a été toujours pour nous une interlocutrice fiable. C'est une femme qui a une belle énergie. C'est une femme qui aime vraiment le sport. Voilà, maintenant, je suis bien placée pour savoir qu'il y a des vicissitudes politiques, il y a parfois des équilibres qui doivent être faits entre les partis et que vous pouvez être sacrifié pour ça. Voilà.
Et ce sera un mauvais message pour le sport, justement. Parce que là, on a quelqu'un qui justement.
En tout cas, on a.
Accouché à l'héritage.
Et qui en a demain un politique pur qui prend ce poste-là. Et quelqu'un qui aime le sport et qui a envie de défendre ses intérêts.
Merci beaucoup, Amélie Oudéa-Castéra, présidente du comité national olympique et sportif français, d'avoir été avec nous à la veille de la fête nationale du sport. Le sport rassemble, soutenons-le. C'était l'un de vos messages ce matin avec votre tribune il y a quelques jours avec Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique. Et ce petit sticker que vous allez donner demain sur le boulevard du sport,
boulevard
c'est
du
comme
sport,
ça qu'on appelle
Rivoli,
la rue
Rivoli. Jardin des Tuileries, venez nombreux. Il y aura vraiment des moments d'exception avec 110 champions, dont 16 médaillés olympiques et paralympiques, 16 champions olympiques et paralympiques. Ça va être formidable. 73 fédérations mobilisées. C'est vraiment super qu'il y ait tout ce mouvement du mouvement sportif pour animer cette fête du sport.
Et 5000 événements en France, événements gratuits et inclusifs sur tout le territoire. Merci d'avoir été avec nous demain. Je vous le disais, Marie Barzac, la ministre démissionnaire des sports, sera avec nous également cette journée de fête nationale du sport. Vous savez que les grandes gueules du sport, évidemment, on est toujours intéressé par ces débats sur la place du sport en France. C'est notre grande priorité de donner les acteurs la parole aux acteurs.